Aujourd'hui, on profite de votre présence pour vous présenter enfin à l'ensemble du lycée et faire plus ample connaissance avec vous. Donc tout d'abord, s'il vous plaît, pourriez-vous vous présenter ?
Bien sûr. Oui, je ne vous ai pas salué, donc bonjour à tous. Alors je suis Monsieur Jeanneré, Lionel, et je suis inspecteur. Alors c'est un peu compliqué. On appelle si je décline en fait totalement mon métier, je suis inspecteur d'académie, inspecteur pédagogique régional, établissement et vie scolaire. Alors qu'est-ce que c'est que ce métier d'inspecteur? Bien sûr.
Quels sont les buts de votre venue au lycée Victor Hugo, en quoi consiste justement votre métier?
Ah, alors mon métier, bien sûr que c'est celui qui me conduit à être ici avec vous aujourd'hui et dans votre lycée depuis hier matin et jusqu'à ce soir assez tard. Mon métier en fait d'inspecteur, c'est que j'ai à inspecter les chefs d'établissement, donc quand ils sont stagiaires, donc je suis en fait les chefs d'établissement, j'inspecte aussi les professeurs documentalistes, les conseillers principaux d'éducation, et de plus, notre spécialité établissement et vie scolaire, c'est pas juste la vie scolaire en fait, comme vous pouvez l'entendre souvent, c'est-à-dire le conseiller principal d'éducation et ses assistants d'éducation, qui ici je crois vous les appelez communément les surveillants. C'est pas que ça, c'est en fait c'est toute la vie de l'établissement. Dans toute sa grande transversalité. Et donc, en fait, pour ça, nous sommes, ce corps d'inspection est conseillé auprès des recteurs sur tout ce qui est, en fait, du fonctionnement de la vie des établissements.
Alors, la seconde question qu'on voudrait vous poser, c'était est-ce que vous comptiez inspecter les autres lycées français du Maroc, par exemple, les lycées français de Casablanca, Rabat ou autres?
Alors, dans le programme de cette mission de cette semaine, j'avais deux établissements à inspecter, à suivre. J'avais deux établissements donc à suivre avant de venir au lycée Victor Hugo, lycée français d'Agadir. J'étais sur les mêmes missions au lycée français d'Agadir, de Marrakech, au lycée Victor Hugo de Marrakech, excusez-moi, vous allez pouvoir corriger. Et j'étais au lycée donc français d'Agadir avant de venir dans votre établissement au lycée Victor Hugo de Marrakech. Et d'autres établissements vont suivre parce qu'en fait, là, je réponds à une commande de notre ministère qui est de suivre les établissements français de l'étranger dans le cadre de leur homologation. Et donc, naturellement, il y a d'autres établissements au Maroc qui sont aussi homologués, c'est-à-dire qu'ils ont une convention qui les lie à notre ministère de l'Éducation nationale française. Et donc, dans ce cadre-là, il est possible que je revienne, mais il est aussi possible que ce soit d'autres collègues. Nous sommes plusieurs collègues, nous sommes cinq pour le moment. Peut-être y en aura-t-il d'autres les années à venir, mais pour le moment, nous sommes cinq à, on va dire, battre campagne, mission par mission. Alors, pour tout vous dire, ma prochaine mission sera en décembre et je serai en Tunisie, donc sur les lycées français de Tunis.
Alors, on va vous poser une question. Combien y a-t-il de lycées français dans le monde du réseau de l'AEFE?
J'ai un joker. Ça doit être autour de 300. Le chiffre exact va m'échapper. Ça doit être 350 à peu près. 350 à peu près établissements dans les lycées français homologués, donc des deux réseaux, au SUI pour ici, MLF, AEFE. Ça fait à peu près 450 établissements.
Alors d'accord. Justement, vous parlez de lycées homologués. On vous demandait quels sont les différents types existants d'établissements français.
Mais écoutez, on peut être établissement français homologué, Mais on ne peut pas être sur l'appellation de lycée français si on n'a pas d'homologation. Donc dans ce cas-là, on sera un lycée dans lequel, en fait, on aura un enseignement qui va être français, que peut-être d'ailleurs ils respecteront totalement le programme français, dont les enseignements vont tous être en français. Mais par contre, pour avoir l'appellation, il faut être homologué. Alors, combien y a-t-il de types ? Eh bien, il y a ceux après, mais c'est plus compliqué que... Enfin, je ne sais pas si c'est très intéressant que ça puisse être expliqué. Ça dépend le mode de gestion. Il y a en fait des établissements qui sont sous une gestion. Alors, il y a deux associations qui permettent de pouvoir piloter ces établissements. Donc, la UFE, en l'occurrence, pour ce qui vous intéresse, on peut être, comme dans votre établissement ici, ce que l'on appelle un établissement en gestion directe. On peut être aussi en établissement partenaire. Et c'est simplement, en fait, la différence étant simplement sur le mode de fonctionnement budgétaire de l'établissement. On est, en fait, géré soit directement par l'agence, soit, en fait, en autonomie totale, en pleine responsabilité de gestion financière et donc, du coup, d'organisation, en fait, dans l'établissement.
D'accord. Alors, on voulait savoir ce que c'était qu'un établissement conventionné.
Un établissement conventionné, c'est celui en fait qui a passé convention. C'est un établissement qui aurait passé convention avec notre ministère en l'occurrence ou justement l'agence, la EFE. Donc là, dans ce cadre-là, il y a un contrat qui a été signé, une convention qu'on a signée, s'engageant mutuellement les uns à pouvoir donner les moyens de fonctionnement. Enfin, ou une partie des moyens de fonctionnement, de les aider en fait en leur donnant aussi les moyens de gestion, les moyens d'accompagnement pour pouvoir installer le renseignement d'une manière la plus efficiente possible, et puis les autres bien sûr à respecter à la bonne utilisation des moyens, à l'efficience justement de ces moyens-là, et puis à respecter aussi leur engagement mutuel, c'est-à-dire en l'occurrence, pour nous, ce qui va nous intéresser, c'est-à-dire de bien respecter les programmes français, de faire que vous puissiez être tous les élèves accompagnés, même si vous rencontrez, pour vos camarades qui vont rencontrer le plus de difficultés, il ne s'agit pas en fait de penser qu'on est lycée conventionné, donc on doit faire réussir tout le monde.
Alors justement, on parlait de convention, est-ce qu'on justement peut révoquer cette convention, et si oui, pourquoi ?
Oui, bien sûr. Une convention, c'est un engagement, en fait, au moins... c'est deux parties qui se mettent d'accord et qui vont conventionner. Donc, comme tout contrat, il y a toujours dans une convention une possibilité aussi, une clause, en fait, de rupture de convention. Alors, soit c'est parce qu'il n'y a plus respect de l'engagement de l'une des parties et l'autre dénonce la convention... L'autre partie dénonce la convention puisqu'il n'y a plus, le respect en fait de l'ensemble de ses engagements, ou bien en fait pour l'une ou l'autre qui a envie des parties qui a envie de se désengager pour une raison qui pourrait lui appartenir. C'est toujours possible, mais ici en l'occurrence, il n'y a pas d'intérêt qu'un établissement tel que le LVMH puisse se désengager d'une convention comme ça. Vous avez plutôt dans ce lycée intérêt. À maintenir et à soutenir cette convention.
Donc, aussi une question intéressante, c'est qu'est-ce qui vous a poussé à devenir inspecteur ?
Ah, alors ça, c'est une autre question. Vous savez, quand on a votre âge, j'allais dire, au moins pour ce qui était de mon parcours, jamais je n'aurais imaginé, d'ailleurs je ne savais même pas que c'était un métier, d'être chef d'établissement, d'être proviseur. On connaît en fait le métier de professeur, on connaît très peu le métier d'ailleurs de CPE, de conseiller principaux d'éducation. Donc parfois on se dit, tiens, j'ai envie d'être professeur, mais on n'imagine absolument pas pouvoir être chef d'établissement et on imagine encore moins être inspecteur. Donc c'est une évolution plutôt professionnelle qui se construit dans un parcours professionnel donné. Alors maintenant, on est un peu plus visible La preuve, c'est que voilà, vous me parlez, je vous parle. Donc on est un peu plus visible dans le schéma en fait de l'éducation. Donc il est possible que certains d'entre vous puissent dire, ah ben, moi j'ai envie d'être chef d'établissement, j'ai envie d'être inspecteur. Mais moi, quand j'avais votre âge, vous savez, j'étais en lycée comme vous. Honnêtement, je ne sais même pas le nom du proviseur. Enfin, ça ne s'appelait pas tout à fait proviseur et proviseur adjoint. On avait les censeurs. Donc, les censeurs d'études, on avait leur nom parce que c'est ceux qui, des fois, nous reprenaient sèchement quand on nous réussissions un peu moins. Mais un proviseur, un chef d'établissement, moi, je ne sais même pas qui était le chef d'établissement. Et dans tous les cas, c'était quelqu'un que je savais très important et pour lequel j'avais vraiment pas envie de passer dans son bureau parce que je saurais que c'était pour... ça n'aurait pas été très favorable pour moi. Donc, vous voyez, je ne rêvais pas de ça. Et un inspecteur, quand j'en voyais, je me disais, on était mort de trouille. On voyait ces personnes au fond de la salle. On ne savait pas trop s'ils venaient pour l'enseignant ou pour nous. Et du coup, on était très sages en ces moments-là. Et voilà. Maintenant, bon, c'est quelque chose d'un peu plus ordinaire. Il y a beaucoup plus d'inspecteurs. On est beaucoup plus présents sur... dans les établissements, on est beaucoup plus présent dans vos salles de classe et peut-être que j'espère que ça me donnera envie. Donc pour répondre à ta question, qu'est-ce qui m'a donné envie? C'est simplement une évolution de mon parcours professionnel qui m'amène à cela.
Et justement, par rapport à cette évolution professionnelle, quelles sont les études que vous avez faites pour en venir jusqu'à là?
Alors, les études... C'est une bonne expérience pour justement vous dire mon parcours et vous montrer que combien ça peut évoluer. Alors moi, j'ai un baccalauréat E, série E. Alors qu'est-ce que c'était que ce baccalauréat ? C'est un baccalauréat dans lequel il y avait en fait une formation technologique. C'est un baccalauréat où les mathématiques, les sciences physiques et... petite partie d'enseignement général était commune à deux autres filières qui étaient les filières C et les filières D, qui étaient en fait finalement l'équivalent de votre bac S. Et moi en fait j'étais dans ce qu'on appelle aujourd'hui SSI, pour faire un gros parallèle, même si vraiment ça n'a vraiment rien à voir, mais quand même c'est à peu près ça. Ensuite de ça, moi, j'ai démarré mes études par une filière courte, donc type BTS, pour aller après en école d'ingénieur. Et en école d'ingénieur, après l'école d'ingénieur, j'ai passé un concours de l'ANSET, l'École nationale supérieure de l'enseignement technique, que j'ai obtenu. Et j'ai été donc professeur en lycée. Je l'étais très peu, parce que j'ai été plutôt professeur de professeur. J'étais en fait professeur dans un centre de formation des maîtres. C'est-à-dire, je formais en fait les futurs professeurs. Et puis, à l'issue de cela, j'ai fait évoluer ma carrière vers les métiers d'encadrement, c'est-à-dire personnel de direction. Donc, j'ai été 14 ans proviseur d'établissement, dont un gros lycée, un lycée à peu près un peu plus important que celui-ci, où il y avait 167 professeurs, donc pratiquement 1500, un peu plus de 1500 élèves en France. Et puis le corps d'inspection m'est pas venu tout à fait naturellement, même si bon, je savais que c'était la possibilité de pouvoir poursuivre sur l'inspection, mais c'est que voilà, ma hiérarchie m'a amené en fait progressivement à accepter ces missions-là. Je m'épanouis dans ces missions, je me retrouve aujourd'hui, voilà, on me confie des missions qui sont nationales puisque je suis ici.
En parlant d'études, est-ce que vous pensez que tous les élèves aujourd'hui sont orientés vers la bonne filière et avez-vous un conseil pour eux ?
Pour ceux qui sont bien orientés ou mal orientés, j'ai qu'un seul conseil, c'est de choisir la filière qui vous convient. Les filières, elles sont toutes colorées, vous avez bien vu, hein, je reviens à ce que je vous disais tout à l'heure, elles sont toutes colorées avec du scientifique, avec du littéraire, avec de l'économie, avec une discipline technologique, etc. Donc la bonne filière et l'élève bien orienté, c'est celui en fait qui va s'épanouir dans sa formation, dans ses études. Bien sûr, il faut qu'elle corresponde au mieux à son projet personnel et professionnel. Mais pour autant, il n'y a pas de bonne et de mauvaise filière. Il faut enlever cette idée qu'il y a une hiérarchie des baccalauréats. En France, un baccalauréat, qu'il soit scientifique, économique, littéraire, c'est-à-dire d'enseignement général, technologique, STI, STI2D, STMG, STL, ST2S, etc. Enfin, il y en a un certain nombre de listes, les bacs technologiques, qui soient aussi de bacs professionnels, c'est un baccalauréat. Aujourd'hui, vous savez, il y a un quota. Par exemple, si je prends les baccalauréats professionnels, qui sont destinés à des élèves qui ont besoin d'un peu plus de concret pour pouvoir comprendre des choses, et donc passer par de la pratique, par faire des choses avec leurs mains, avec des gestes professionnels, eh bien, ce sont des jeunes qui peuvent très bien poursuivre après. Et en France, on laisse des quotas pour ça aux filières courtes, les BTS en l'occurrence. Ils peuvent très bien réussir.
Alors, sans être indiscret, on voulait vous poser une question. En moyenne, quel est le salaire d'un inspecteur ?
Alors, un salaire d'un inspecteur, c'est pas indiscret, parce que vous savez, nous sommes fonctionnaires d'État. Donc, si vous voulez regarder, en fait, les grilles de salaire d'un fonctionnaire d'État, elles sont publiques. Hein. Un inspecteur, c'est... Alors, ça dépendra encore aussi du moment où il va passer dans le corps d'inspection, suivant, en fait, son indice de rémunération dans le métier qu'il était avant. Alors, il y a une chose qui est sûre, c'est qu'on ne peut pas être inspecteur sans avoir été avant professeur ou chef d'établissement. Il faut déjà être dans les métiers d'enseignement pour pouvoir rentrer dans l'inspection à l'éducation nationale. Mais on peut l'être aussi parce qu'il y a une autre filière d'inspection qui est d'administration. Donc on peut être, par exemple, ici, comme votre directeur des affaires financières, pourrait être dans un corps d'inspection spécifique qui est plutôt de l'administration et de l'enseignement supérieur. Par contre, pour répondre à votre question, je ne vais pas l'éluder, vous inquiétez pas. On va dire, en gros, ça démarre à 3 000 euros et un inspecteur aujourd'hui va terminer peut-être à peine à 5 000 euros.
Quelle est la différence entre une gestion directe et indirecte ?
Je ne sais pas répondre. Je ne saurais pas répondre. Je ne saurais pas répondre parce qu'en fait, facile, mais d'une manière très compliquée. Donc, ça n'a pas tellement d'intérêt. Parce que gestion directe et indirecte, en fait, c'est soit c'est le chef d'établissement qui a toute l'autonomie financière avec son directeur financier, soit c'est l'agence. Je ne sais pas si ça vous convient comme réponse. Comment ?
Vous avez mentionné.
Et du coup, je l'ai mentionné un peu tout à l'heure.
Vous avez dit partenaire.
Oui.
Et on voulait aussi vous demander, en fait, qu'est-ce qui définit les écolages ? Qui définit les écolages ?
Les écolages. Ce sont en fait tout ce qui, généralement, c'est lié au financement. Par exemple, quels élèves vont payer quel montant et qu'est-ce qui va organiser justement ce mode d'emploi ?
Alors, qui est-ce qui va faire ça ? Ben, je pense que les établissements français à l'étranger, qu'ils soient conventionnés, gestion directe ou indirecte, ils ont un enjeu qui est d'être dans un équilibre financier. Donc en fait, qui est-ce qui va décider cela ? Bah, j'allais dire, c'est un, déjà le conseil d'établissement, deux, parfois l'organisme... l'agence pour votre cas, c'est-à-dire l'organisme en fait de gestion, et puis éventuellement les autres instances qui peuvent aussi financer. Mais l'idée, c'est de toute façon que ces établissements-là, ils doivent à un moment donné trouver un équilibre entre ce que ça coûte, la formation, y compris l'entretien des locaux, y compris de l'investissement, qu'il soit mobilier, de matériel ou immobilier, c'est-à-dire le bâti, et le coût des enseignements, c'est-à-dire en fait l'ensemble des salaires des enseignants, l'ensemble des salaires des personnels administratifs, de services, etc. Donc en fait, qui est-ce qui va décider ? Ben, j'allais dire, c'est l'ensemble des choix. Par exemple, imaginons que vous souhaitiez être uniquement 10 par classe. Pas plus de 10. Imaginons cette utopie. Eh bien, naturellement, vous imaginez bien que ça va multiplier le nombre d'enseignants et donc ça va augmenter considérablement les coûts de scolarité. Le plus vous allez être d'élèves face à l'enseignant, le plus, en fait, le coût de scolarité va être amoindri. En revanche, il ne s'agit pas non plus d'imaginer qu'on mette 30 élèves pour faire des économies. On met 30 élèves parce qu'en fait, aujourd'hui, ce n'est pas un équilibre financier qui est cherché à travers cela, c'est qu'il y a une forte demande de l'enseignement français de l'étranger et que derrière cela, honnêtement, et j'ai eu l'occasion d'en discuter avec vos professeurs ce matin, l'efficacité du nombre d'élèves face à l'enseignant n'est pas un critère, en fait, un, de qualité de l'enseignement et deux, en fait, de garantie de réussite des élèves. C'est vraiment la qualité du geste professionnel de l'enseignant qui va garantir cette réussite et cette qualité. Donc, à 30 élèves, on ne fait pas forcément moins bien qu'à 27, on ne fait pas forcément moins bien qu'à 12. On peut faire la même chose. La seule chose, c'est que le geste professionnel de l'enseignant ne pourra pas être le même s'il est devant 12 élèves, 24 ou 30 élèves.
On en vient à la fin de notre interview. Nous vous remercions de nous avoir consacré de votre temps.
Merci beaucoup et surtout bon courage à vous tous. Soyez engagés dans vos études et je vous souhaite vraiment beaucoup de plaisir dans l'ensemble de vos études et puis réussite professionnelle.
Merci beaucoup.
Et j'espère vous retrouver peut-être.